résistance.
C'est à vous de dire si l'action de Gessmar est bonne ou non. Je veux témoigner dans la rue parce que je suis un intellectuel et que je pense que la liaison du peuple et des intellectuels qui existait au 19e siècle, pas toujours, mais qui a donné de très bons résultats, devrait être retrouvée aujourd'hui. Il y a 50 ans que le peuple et les intellectuels sont séparés. Il faut maintenant qu'ils ne fassent plus qu'un. Non pas pour que les intellectuels donnent des conseils au peuple, mais au contraire, pour que ces masses prennent une forme neuve. Et c'est pourquoi je vous dis, nous nous retrouverons certainement.
Bonjour Manuel. Bonjour. Cervera Marzal. J'ai bien prononcé, ouf, c'est déjà bien. Vous êtes docteur en sciences politiques, vous êtes enseignant à l'EHESS, l'école des hautes études en sciences sociales. Vous enseignez quoi d'ailleurs à l'EHESS ?
La philosophie politique et la sociologie.
D'accord, on peut faire les deux.
On peut faire les deux et justement j'invite les étudiants à essayer de croiser les deux parce qu'il me semble que c'est assez dommage de se limiter à la philosophie ou bien à la sociologie.
D'accord, bah vous en parlez dans le livre, on va l'aborder tout à l'heure justement de plus de transversalité entre les disciplines. Alors vous avez 28 ans, vous êtes tout jeune, mais vous avez déjà pas moins de 5 livres à votre actif, peut-être même plus.
Il y a le 6e pour avril prochain ce que j'appelle les nouveaux désobéissants, donc toutes les actions de type désobéissance civile, zadisme, activisme en ligne, manifestations interdites, tout ça.
D'accord, parce que votre thèse de doctorat portait sur la désobéissance civile, mais la vieille.
C'est ça, sur la vieille, Gandhi, Martin Luther King, mais aussi sur la plus récente, des actions écologistes, en solidarité avec la cause palestinienne, qui sont des actions hors la loi et qui persistent aujourd'hui, dans l'inspiration de Gandhi. Mais...
Ce qui vous intéresse, c'est l'égalité de ces mouvements-là. Donc voilà, je vais citer juste quelques-uns de vos livres, Désobéir en démocratie, la pensée désobéissance de Thoreau à Martin Luther King, La gauche et l'oubli de la question démocratique, celui-là portait plus sur une tentative de définir quelle nature était le régime dans lequel nous nous trouvions et de conclure qu'il n'était pas démocratique, mais plutôt oligarchique. Un autre, Autonomie ou barbarie, la démocratie radicale de Cornelius Castoriadis et ses défis contemporains, celui-là vous l'avez dirigé, c'est un ouvrage collectif. Voilà, et le dernier livre qui paraît cette semaine et qui porte un titre fait pour être repéré sur les étals des librairies. Il s'appelle « Pour un suicide des intellectuels ». Je ne vous accuse pas d'avoir voulu faire du marketing, hein, mais quand même, ça marche bien. Alors, pour résumer, vous y expliquez en introduction que dans ce contexte de présence grandissante des intellectuels réactionnaires et de tentatives de contre-offensive menées par certains intellectuels de gauche ou dits de gauche, vous proposez une voie que vous qualifiez de paradoxale, celle d'un suicide collectif des intellectuels, geste qui, selon vous, s'inscrirait dans une perspective de redistribution radicale des tâches de réflexion et d'exécution. Alors, je vais tout de suite rassurer ou décevoir les gens. Vous ne demandez pas l'auto-élimination physique des intellectuels. Voilà, ça aurait pu vous amener des problèmes, enfin peut-être pas d'ailleurs, mais plutôt leur disparition en tant que catégorie distincte du reste de la population. Donc pour résumer, il faudrait liquider les intellectuels pour permettre à chacun de le devenir. C'est ça ?
C'est ça, super. Exactement.
Alors évidemment, la première question qu'on a envie de vous poser, enfin peut-être pas évidemment, mais moi que j'ai eu, pendant que je lisais le livre qui m'a traversée, c'est est-ce que je suis une intellectuelle ? Est-ce que vous l'êtes ? Donc, et ça tombe bien puisque vous commencez le livre par une tentative de définition. Donc est-ce que moi, par exemple, je suis une intellectuelle ?
Le point de départ du livre, c'est effectivement de constater, et c'est une très juste question, que la définition de qui est intellectuel et qui ne l'est pas, elle est particulièrement floue. Elle est très poreuse. Saint Augustin disait des chrétiens et des membres de l'Église catholique, il y a ceux qui en font partie sans le savoir, et puis il y a ceux qui pensent en faire partie, mais en réalité qui n'en sont pas. Moi, je dirais la même chose des intellectuels. C'est-à-dire, il y en a qui se pensent comme des intellectuels, et bon, en tout cas, si on en juge par la production des idées qu'ils amènent sur le marché des idées, on peut en douter. Il y en a d'autres qui sont, à l'inverse, des intellectuels qui s'ignorent. Alors, pour définir la catégorie, moi j'ai donné quelque chose de simple, c'est que je considère que les intellectuels sont des gens qui sont rémunérés pour produire des idées. Il y a tout un ensemble de statuts différents au sein de la catégorie des intellectuels, de rémunérations différentes, etc. Mais voilà, c'est l'idée générale, c'est des gens qui sont payés pour s'informer, observer, discuter, et puis pour enseigner, pour informer, pour débattre, etc.
D'accord. Donc, est-ce que je suis payée pour produire ? Pour l'instant, je ne produis pas d'idées, mais par exemple, je suis payée pour les diffuser. Ça fait de moi une intellectuelle ?
Ça fait tout à fait de vous une intellectuelle. Ça fait tout à fait de vous une intellectuelle. Il faut les produire, il faut les diffuser. C'est un vrai travail à part entière.
En même temps, je n'ai pas de quoi me réjouir puisqu'on va quand même se diriger vers une disparition radicale de cette catégorie. Donc, bon, on s'en fout. Mais donc, être intellectuel, c'est donc être payé pour faire travailler sa tête. Mais en même temps, est-ce que ça concerne toutes sortes d'idées? Quelles sortes d'idées? Est-ce qu'il faut, par exemple, que les idées soient neuves, inédites ou pas?
Alors, on fait difficilement du totalement inédit.
Voilà.
En général, quand on arrive laborieusement à produire des nouvelles idées, c'est parce que d'abord, on a longtemps travaillé celles des prédécesseurs. On reprend toujours des vieux problèmes.
D'accord.
On reprend des vieux problèmes et puis on essaye de les adapter aux questions qui se posent aujourd'hui parce que y a du changement, il y a de l'évolution.
Et d'ailleurs, la question de la place des intellectuels dans la société, c'est pas un problème nouveau, c'est un vieux problème
un problème qui se posera jusqu'à ce que la catégorie des intellectuels disparaissent, se suicident, que la profession se démocratise à tout le monde.
Voilà. Alors, il y a autre idée, toujours dans cette idée de quelle sorte d'idées il faut produire, est-ce qu'il faut que ces idées soient progressistes ou pas? Ça veut dire, est-ce qu'il y a des intellectuels de droite ou est-ce que les intellectuels, ça vaut que pour ceux qui se placeraient ou au moins font semblant de se placer du côté des opprimés?
Malheureusement, il y a tout à fait des intellectuels de droite. C'est
d'accord,
d'ailleurs eux aujourd'hui qui occupent majoritairement l'espace intellectuel, l'espace médiatique. C'est des gens, on a parfois l'impression qu'ils ont une matraque à la place du cerveau, mais c'est eux qu'on entend. Et l'enjeu justement de démocratiser cette profession, c'est de lutter contre ce discours hégémonique des intellectuels néo-réactionnaires, néo-conservateurs.
Sauf si la démocratisation entraîne une démocratisation
de leurs idées.
De leurs idées. Non, mais ça, c'est un
risque. C'est pas l'idée, mais leurs idées reposent notamment sur le fait que sur l'idée qu'ils détiendraient un privilège de l'intelligence que eux peuvent penser et que d'ailleurs ils le font très bien, ils le font à la place de tous les autres et c'est ça ce qu'ils défendent, ces gens-là. Le suicide des intellectuels, c'est au contraire l'idée que l'intelligence et notamment l'intelligence politique, la capacité à s'orienter dans la politique, c'est quelque chose qui est universellement partagé. Qui est loin d'être le privilège de cette petite caste, en tout cas d'intellectuels médiatiques.
D'accord. Donc, il y a une question du coup qui arrive quand on parle de démocratisation de cette profession. On aurait pu penser que la massification des études supérieures allait de fait démocratiser la catégorie d'intellectuel, or c'est pas le cas.
Mais alors ce qu'on se rend compte, c'est que effectivement la massification des études a permis à de plus en plus d'individus d'accéder quelque part au statut d'intellectuel, alors d'intellectuel précaire, parce que tous les pigistes, les étudiants qui cherchent des financements à droite à gauche pour réaliser leur mémoire, qui travaillent à côté, etc. Toutes ces petites mains du monde intellectuel, ces intellectuels précaires, effectivement sont venus augmenter le nombre d'intellectuels. Mais ce qu'on voit, c'est qu'en même temps qu'il y a une augmentation, si vous voulez, du nombre d'invités au buffet des nourritures intellectuelles, le buffet, il est de moins en moins garni. Il y a de moins en moins d'argent, il y a de moins en moins de moyens pour ces gens-là, tout simplement parce qu'il y a des politiques d'austérité qui coupent les subventions, l'argent pour la recherche, la culture, les arts, etc. Donc il y a de plus en plus d'intellectuels, mais avec de moins en moins de moyens. C'est un problème.
D'accord, mais alors là, j'ai un problème de logique. pardon, c'est que du coup, s'il y a de plus en plus d'intellectuels, mais que de moins en moins sont réellement payés pour faire ce qu'ils font, donc on est sur la bonne voie.
Non, parce que l'idée, c'est d'avoir de plus en plus d'intellectuels, ouais. mais qui vivent dans des conditions matérielles décentes. L'argent, il y en a. Hein.
D'accord. Bon,
je donnerai un seul chiffre, hein. C'est les 160 milliards d'évasion fiscale que le gouvernement français ne fait rien pour récupérer. Au contraire, on a entendu il y a un mois que le gouvernement, dans l'urgence au Parlement, était intervenu, pour empêcher un amendement qui allait permettre d'avoir un petit peu plus de visibilité sur l'argent des grandes entreprises à l'étranger.
Cette histoire est folle.
Cet argent, si on le récupérait, il permettrait de résoudre tous nos problèmes. Le trou de la sécurité sociale et le problème des intellectuels.
Mais alors, la question dont vous dites qu'elle est centrale de votre livre, c'est quelle est la tâche prioritaire des intellectuels. Et donc, selon vous, la tâche centrale des intellectuels, c'est justement de poser les bases de ce suicide collectif et donc d'abolir les frontières sociales, économiques et symboliques qui séparent ce groupe du reste de la population. Alors, comment abolir ces frontières ? Si ce que je vous ai bien compris, il faudrait que dans leur vie quotidienne, les intellectuels puissent occuper un travail, on va dire normal, manuel, et réfléchir au sens de la vie le soir, c'est ça ?
Il ne s'agit pas de « il faudrait », là je ne suis pas dans de la prescription et je préconise nullement d'envoyer les intellectuels au camp de travail,
etc.
au Turmain, ce n'est pas du tout ça ce que je dis. Tout simplement, ce que je fais, c'est un constat, à savoir que nous sommes dans une société qui fonctionne selon différentes logiques, mais une de ces logiques est une séparation croissante entre ceux d'un côté qui pensent, ceux qui se dédient aux tâches intellectuelles et ceux à qui on demande de travailler avec leurs mains, le labeur physique, etc. Et je constate que, de manière tendancielle, évidemment, ça ne va jamais jusqu'au bout, mais ça crée deux types d'individualité morcelée, deux types de personnalités, à un extrême, ce qu'on pourrait appeler des têtes sans corps, et à l'autre, des corps sans tête. Évidemment, dans la réalité, on ne voit jamais ça aboutir jusqu'au bout, mais si vous voulez, c'est la tendance qui est à l'œuvre et qui anime le fonctionnement de notre société. Et ça, je pense que ça fait du tort aux uns comme aux autres.
Et alors, vous dites, on a tous eu, donc les intellectuels, on a tous eu à un moment la tentation de rejoindre les rangs des institutrices, instituteurs, des conducteurs de bus, des charpentiers. Et c'est sans doute vrai, mais c'est peut-être moins pour faire quelque chose de ses mains que pour avoir l'impression de faire quelque chose de réellement utile pour la société. Mais c'est parce que, est-ce que de fait, en essayant d'abolir la supériorité des idées sur le travail manuel, est-ce que la retourner, c'est une solution ?
Non, justement, il ne s'agit pas de la retourner, il s'agit de trouver un équilibre entre les deux et de permettre à chacun, de permettre aux travailleurs du nettoyage, de permettre aux mécaniciens, etc., d'accéder clairement à des études s'ils ont envie d'en faire. Aujourd'hui, ce n'est pas possible pour eux, tout simplement parce que les structures sociales, les structures économiques, symboliques sont organisées de manière à ce qu'un ouvrier doit aller à l'usine, doit travailler, mais voilà, n'a tout simplement pas le temps le soir quand il rentre chez lui. Malheureusement, certains le font, mais voilà, n'a malheureusement pas le temps de se consacrer à des études, à de la lecture, à ces choses-là. Et moi, ce pourquoi je plaide, c'est pour qu'on lui offre cette possibilité et qu'on offre aussi la possibilité aux intellectuels qui le souhaitent, mais seulement s'ils le souhaitent, de renouer avec un certain travail manuel. Et c'est effectivement une aspiration que je sens poindre chez un ensemble d'intellectuels qui peuvent être de différentes professions, ce retour, si vous voulez, vers des métiers qui sont des métiers clairement manuels, la menuiserie, le fait de travailler avec ses propres mains.
Généralement, c'est plus la menuiserie que éboueur ou tourneur-fraiseur.
Effectivement. Mais pour prendre ce cas extrême qui est, qui est celui de l'éboueur, je pense qu'une des grandes raisons pour lesquelles ce métier est aujourd'hui si déprécié, c'est la question du salaire.
Du salaire, mais ça, bien sûr. Mais je pense quand même que Vous diriez maintenant un maître de conf en sociaux, à salaire égal, qu'est-ce que tu préfères, aller faire éboueur ou ébéniste? Je pense qu'il dira ébéniste parce que. Mais après, vous avez
Bien
raison,
sûr, mais...
vous le dites dans le livre, c'est le sale boulot, c'est une construction et que l'utilité sociale des éboueurs est plus grande que celle des maîtres de conf en sociologie.
Mais raison de plus, quand bien même au final le métier d'éboueur resterait un sale boulot, est-il juste que ce métier soit réservé tout au long de leur vie à certains individus et que les autres en soient exclus et privilège d'en être exclus. Non, si c'est une tâche sur laquelle on se met à peu près tous d'accord sur le fait que voilà, c'est pas la plus épanouissante, eh bien dans ce cas-là, cette tâche, il faut la partager.
D'accord. Mais le métier d'intellectuel n'est pas un métier qui fait rêver les enfants. Je n'ai encore jamais rencontré d'enfant qui dit « Maman, je voudrais être... » professeur de sociologie ou philosophe. Et puis, les footballeurs sont quand même beaucoup mieux payés. Donc, je suis plus sûre de la supériorité symbolique de cette catégorie. Enfin, en tout cas, pour les générations qui
Pour les
viennent.
Enfants, mais parce que pour les enfants, effectivement, ce qu'ils voient à la télé, ce qu'on leur vend dans les magazines, c'est Benzema, etc. Mais vous regardez dans les catégories, tout simplement, à l'âge adulte, qu'est-ce qui est le plus valorisé entre être un intellectuel, écrire des livres, ou courir en short sur un terrain de football? Bon, je ne suis pas certain là, que ce soit si tranché que pour les enfants.
Ouais, d'accord. Oui, peut-être, mais en tout cas, qu'il y a quand même depuis quelques années une perte de valeur symbolique de ces professions-là qui n'ont plus l'aura dont elles bénéficiaient.
Oui, bien sûr, elles n'ont plus l'aura parce que, notamment auprès des hommes politiques, c'est d'autres qui les ont remplacées. Aujourd'hui, qui écoute nos ministres, qui tend-il l'oreille, à des conseillers en communication, à des spécialistes des sondages, à des gens qui leur donnent au quotidien la stratégie à suivre pour augmenter d'un point dans les sondages, etc. Voilà, on écoute des gens qui raisonnent à court terme, qui sont ce que Bourdieu appelait des fast thinkers, et plus effectivement des professeurs d'université.
Ouais. Et alors donc pour poursuivre dans le raisonnement, donc pour toujours jeter les bases de ce suicide, de cette disparition de cette catégorie, vous dites pour que cette profession se démocratise, il faut que ceux qui jouissent de cette fonction aujourd'hui s'engagent au sens fort.
Oui.
Et alors ça passe par faire le deuil de une neutralité qui n'est ni réelle ni souhaitable. Mais là, j'ai toujours eu du mal à comprendre ce que c'était qu'un engagement au sens fort. Ça veut dire manifester, enfin s'impliquer physiquement dans une manifestation, dans une occupation d'usine, ou est-ce que ça consiste à intervenir dans le débat public, à écrire des livres, à signer des pétitions Qu'est-ce que vous entendez par s'engager au sens fort?
Tout, parce que là, ce que vous décrivez, c'est différentes formes d'engagement, et toutes sont possibles, et ça, libre à chacun de choisir celle qui lui semble la plus efficace et la plus adaptée à sa position, à ses possibilités, etc. C'est vrai que moi, là où je mets le point et ce sur quoi j'essaye d'attirer l'attention, c'est sur le fait qu'il y a un certain apolitisme aujourd'hui des milieux intellectuels, qu'ils soient universitaires ou qu'ils relèvent plutôt du monde de l'art ou de la culture, et même y compris en partie du monde journalistique, j'ai l'impression, il y a un certain apolitisme, un refus tout simplement de mettre ses idées sur la table et de les défendre après comme vous voulez, en adhérant à un parti, en allant manifester ou bien en prenant publiquement position à travers des livres, des tribunes, etc.
Je ne pense pas que les journalistes soient apolitisés, je pense qu'ils le sont très, mais qu'après qu'ils le disent, c'est une autre histoire. Mais
tout à fait.
Mais d'accord.
Mais effectivement, je suis d'accord avec cette distinction. Hein. C'est-à-dire que tout le monde a des idées politiques, et c'est bien ça le problème, c'est que tout le monde a des idées politiques, mais une grande partie d'entre nous n'ose pas affirmer ses idées politiques. Et donc, ça a un effet pervers, si vous voulez. C'est que ces idées, elles reviennent, malgré tout, dans les articles, les interviews que vous pouvez faire, dans les livres que je peux écrire, dans les productions artistiques qui sont produites. Et ces idées reviennent, mais de manière non assumée. De manière non assumée. Moi, je plaide pour qu'on les pose dès le départ sur la table et pour qu'on les défende.
Mais alors, sur l'intervention donc publique des intellectuels, intervenir aujourd'hui, ça veut dire être médiatique, quand même.
Ça,
Et
en partie, oui.
être médiatique pour un intellectuel, c'est se perdre plus ou moins, parce que ça veut dire accepter les règles du jeu médiatique. Et donc, alors, c'est un débat sans fin entre ceux qui veulent y aller, ceux qui veulent pas, ceux qui veulent y aller dans telles conditions, débattre avec machin, mais ou pas. Est-ce qu'il y a une règle selon vous? Enfin, est-ce que vous avez une position là-dessus?
Non, mais ce débat, il est intéressant, effectivement. Je pense qu'il faut toujours relire, et on devrait le faire lire à tout étudiant en sciences sociales de première année, l'ouvrage de Pierre Bourdieu sur la télévision. Parce qu'il montre parfaitement comment les logiques du champ journalistique nuisent aux idées, enferment les idées, empêchent de développer une réflexion. Donc cet ouvrage, il faut le lire. Ça conduit un certain nombre d'intellectuels à refuser d'aller à la télévision. C'est pas ma position. Je pense qu'on peut, dans une certaine mesure, avec une certaine prudence, jouer le jeu des médias, aller à l'intérieur, y compris on a des alliés à l'intérieur du monde journalistique. Je suis désolé, mais les grands patrons de presse français n'ont pas les mêmes opinions politiques et n'ont pas les mêmes intérêts que l'ensemble des petites mains qui travaillent pour eux. Donc il y a possibilité de travailler avec des journalistes, c'est indéniable. Il y a possibilité d'utiliser pas seulement la presse écrite, aussi la télévision. Quand vous regardez ce qu'a réussi à faire Podemos en Espagne, à partir de la construction de la figure médiatique et charismatique de Pablo Iglesias dans les médias, on peut apporter tout un tas de critiques à ce que fait actuellement Pablo Iglesias, mais malgré tout, il a réussi, il a fait la démonstration qu'il était possible de faire progresser la cause du peuple espagnol et du peuple catalan en jouant le jeu des médias.
Sciemment, c'est-à-dire
Sciemment.
en ayant d'abord étudié voilà, comment ça se passait et
Mais
en les battant sur leur propre terrain.
justement, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Pas la stratégie à adopter, mais en tout cas, ce que moi je fais en tant qu'intellectuel la conception du métier que je défends, c'est qu'on a tout un tas d'outils pour comprendre comment fonctionnent les médias. D'abord parce que les journalistes eux-mêmes y sont au quotidien et qui nous le disent et qui nous donnent des informations là-dessus pour nous aider, pour être aussi, parce qu'ils sont aussi nos alliés. Et on a tout un tas de travaux de sciences sociales aussi qui nous guident là-dessus et qui font que quelque part, eh bien oui, emprunter les outils, les armes de l'adversaire contre lui.
J'ai pas dit une fois pour toutes que j'irai jamais à la télé. J'essaie de n'y aller que quand j'ai quelque chose à dire et que je pense que j'ai des chances de pouvoir le dire. Voilà. Mais parfois je me trompe. Je crois que je surestime mes chances de pouvoir dire quelque chose. Soit parce que j'ai pas le talent qu'il faudrait pour me débrouiller dans la situation, soit parce que les conditions sont très difficiles et que personne ne veut entendre ce que j'ai à dire. Donc, mais j'y vais très peu. Mais le principe, c'est quand même de n'y aller que quand je peux dire ce que je veux. Alors l'émission que j'ai faite là sur la télévision, bon, c'est l'émission où j'étais tout seul devant la caméra, personne ne m'emmerdait, mais personne ne me posait des questions. Bon, c'est pas pour moi l'idéal de la télévision. J'aimerais mieux avoir une discussion avec un type, je sais pas si on me dit, vous allez parler avec Chomsky demain, d'ailleurs je vais le faire. Bon, bien sûr, ça m'intéresse, mais discuter avec Bernard-Henri Lévy ou avec... j'ai aucune envie, je sais d'avance ce qu'il va dire... D'ailleurs, ça lui ferait tellement d'honneur, il en tomberait malade si je disais oui à une discussion avec lui, il m'a supplié 100 fois. Ça aussi, c'est une des raisons pour lesquelles je refuse de parler avec certaines personnes, c'est que toute leur vie, ils diraient, voilà, j'ai parlé avec Bourdieu. Bourdieu m'a insulté même, je pense qu'il s'en vanterait. Bon, ça c'est très arrogant, mais c'est vrai.
Est-ce que la ligne de fracture entre ceux qui veulent y aller ou pas, est-ce que c'est une question de génération ou c'est elle se fait là, la ligne de fracture? En gros, que les plus vieux seraient moins enclins à y aller, ont une vision justement un peu, peut-être encore un peu trop bourdieusienne Même si, comme vous le dites, il faut le lire.
Je sais pas, j'y ai pas réellement réfléchi. Je pense que y a quelque chose qui est évident, hein, c'est que, si vous voulez, c'est ce que Bourdieu appelait la circulation circulaire de l'information. Voilà, on fait tourner la même information en boucle et puis on fait tourner les mêmes personnes. Donc une fois que on a lancé Éric Zemmour, une fois qu'on a lancé Natacha Polony, bon bah après c'est eux qui tournent. Puis du rôle de chroniqueur, ils obtiennent leur propre émission et puis après ils sont invités partout. Et donc oui, de fait, plus vous avancez en âge, plus vous êtes dans le circuit et plus vous y restez. Mmh. Et c'est dur pour de jeunes entrants de...
Non, moi je parlais de ceux qui ne veulent pas y aller.
De ceux qui ne veulent pas y aller.
Parmi les intellectuels...
J'ai pas l'impression, non. Mais il faudrait, j'ai pas de données là-dessus, et je me suis pas penché sérieusement sur la question, mais j'ai pas l'impression qu'on puisse affirmer que les plus jeunes seraient plus réticents à y aller.
Non, seraient plus enclins à y aller.
Ah, seraient plus enclins à y aller.
Oui, justement, sur
Est-ce
le modèle
que les plus
de
jeunes sont plus enclins à y aller.
Pardon, ma question n'était pas du
tout. Oui, non, mais c'est. Ils sont. Oui, ils sont. Est-ce qu'ils sont plus enclins à y aller ? Je ne sais pas. Par contre, ce à quoi je constate qu'ils sont plus enclins, c'est à créer leurs propres outils, en ligne notamment.
Ouais.
Parce que justement, typiquement, Podemos ont créé leur émission d'abord en ligne. La Tuerca, c'était sur Internet avant de passer à la télévision. Et il y a aujourd'hui, on ouvre à la suite des indignés, de tout ce qui se fait en termes d'activisme en ligne, on ouvre des espaces de démocratie participative sur Internet, des sites d'information un peu alternatifs, de débats comme on n'en voit pas forcément à la télévision. Donc, si vous voulez, l'idée, c'est que si le média ne vous invite pas, eh ben, créez vous-même votre propre média. Et c'est peut-être un peu ça, effectivement, que font un certain nombre de jeunes intellectuels aujourd'hui.
D'accord. Et donc, ça, c'est une... Donc, on est d'accord sur la nécessité pour l'intellectuel d'intervenir de quelque manière que ce soit, mais selon vous, quand même, malgré ce que vous venez de me dire sur les outils en ligne, la méthode, le moyen d'intervention le plus efficace ou le plus légitime ou ce que vous considérez comme ayant la potentialité la plus subversive, ça reste le livre.
Non. Je pense que le livre a une réelle potentialité subversive, mais... Comment changent les sociétés ? Comment est-ce qu'on passe d'une époque féodale à la modernité libérale ? Comment est-ce qu'éventuellement on renverse des régimes capitalistes pour mettre en place d'autres formes de sociétés réellement démocratiques à travers des grands mouvements sociaux, à travers des mouvements citoyens, à travers l'action tout simplement des gens ordinaires ? Les livres ont un rôle à jouer là-dedans, mais je pense qu'il faut vraiment se défaire de cette idée qu'il y aurait une toute-puissance des idées et que le changement historique arriverait par les idées. Les idées ont un rôle à jouer, elles permettent de déplacer la façon dont on pose les problèmes, mais je crois surtout qu'il faut éviter de retomber dans ce fantasme de l'intellectuel tout-puissant et de son livre qui va venir
qui va tout changer.
Donner le ton. Je dis que, si vous voulez, les intellectuels sont plus un thermomètre qu'un thermostat. C'est-à-dire que l'engagement des intellectuels, regardez à quel point ils s'engagent et dans quelle cause, c'est quelque part le reflet de l'engagement général dans la société. Mais ce n'est pas vraiment ce qui donne le ton.
Oui, alors ça c'est un point que je voulais aborder, mais moi je parlais des moyens pour l'intellectuel d'intervenir dans le débat. Et dans ces moyens, plus que, je ne sais pas moi, la manif ou la pétition, écrire un livre, ça reste quand même...
Oui, d'accord, ça je comprends.
D'accord.
Si, effectivement, c'est moi, je pense
non,
que...
Non, c'est moi, je ne diffuse pas bien en fait, donc je crois qu'on va me retirer. J'ai mon label d'intellectuel.
C'est dommage. Le mien aussi. Non, simplement, effectivement, là-dessus, tout à fait. Le livre est l'outil spécifique de l'intellectuel. C'est-à-dire, l'intellectuel, le soir quand il rentre chez lui, le week-end, c'est quelqu'un comme les autres voilà, qui peut manifester, signer des pétitions, aller dans un parti, faire ce qu'il veut. Mais en tant qu'intellectuel, qu'est-ce qui le différencie du reste ? C'est justement cette... possibilité d'écrire des livres. Pourquoi ? Parce qu'il a accès à certaines ressources, il connaît des libraires, il sait comment se rendre à telle ou telle bibliothèque, il a accès à tout un tas d'informations. On lui a appris normalement durant sa formation universitaire à écrire. Voilà, il manie la langue, il manie le recueil d'informations, donc il peut écrire des livres. Et ça, je pense que c'est une arme effectivement qu'il faut utiliser.
Mais alors, le problème qui se pose là, c'est que écrire, donc si vous le dites, ça demande des ressources matérielles, intellectuelles, il faut un réseau, etc. Mais c'est pas une activité très démocratique. Il y a une minorité de gens qui ont la capacité d'écrire des livres et en plus des bons livres, c'est-à-dire des livres lisibles, clairs, voilà. Donc comment vous ce paradoxe entre le livre comme outil et le désir de démocratisation de cette profession?
Mais c'est, je crois que justement, on est face à ce paradoxe et tout l'enjeu, c'est de le résoudre. Seul un petit nombre de personnes peuvent écrire des livres et quelque part, je les invite, et en tout cas, c'est ce que je fais moi-même, à écrire des livres qui nous permettraient d'avancer vers une forme de société dans laquelle chacun pourrait, s'il en éprouve l'envie, le désir, écrire lui aussi un livre.
Écrire lui aussi un livre.
Mais c'est tout le paradoxe. Mais c'est un vieux paradoxe qui se pose à toute minorité active qui prétend quelque part être, le terme est désuet, a fait son époque, mais être à l'avant-garde du changement social. Comment un petit groupe peut-il prendre l'initiative pour que justement la politique soit quelque chose de réparti entre toutes et tous? C'est compliqué, compliqué, parce que si vous voulez, entre le moyen et la fin, il y a effectivement une contradiction. On veut que tous participent, mais en même temps, pour que tous participent, on est une minorité à prendre l'initiative.
Et alors, il y a une question que vous abordez pas dans le livre directement, mais qui permet de comprendre comment on résoudra aussi le problème du temps passé à écrire, à lire ou à faire des meubles ou à balayer les rues. C'est la diminution drastique du temps de travail. C'est quand même un point important. Donc en gros, pour que cette société, cette démocratisation radicale de la profession advienne, il faut commencer par réduire
considérablement le temps de travail. Aujourd'hui, Emmanuel Macron parle de mettre fin de facto aux 35 heures. Hein, c'est un reniement de plus pour la gauche socialiste. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on ne doit pas se battre simplement pour le maintien des 35 heures. On doit se battre pour un temps de travail de 25, 20, peut-être même 16 heures hebdomadaires. C'est des choses qui sont tout à fait possibles, qui ont été chiffrées, hein, les informations, elles sont à disposition. Deux mesures très simples. Le chômage. Aujourd'hui, il y a 5 millions de chômeurs. On répartit le travail entre tout le monde automatiquement. Le temps de travail diminue. Une deuxième mesure extrêmement simple, vous savez que aujourd'hui la plupart des produits, des biens de consommation sont à obsolescence programmée, c'est-à-dire que les entreprises fabriquent votre ordinateur et votre imprimante de telle façon à ce qu'ils tombent en panne au bout de tant d'années d'utilisation, c'est pareil pour les lampes. Ça amène à travailler pour rien, si ce n'est pour augmenter le profit des entreprises. On met fin à l'obsolescence programmée, c'est pareil, on gagne un temps pas possible. On met fin aussi à toute l'industrie de la publicité et du marketing qui nous vend 20 marques de dentifrice différentes. À l'échelle mondiale, on estime que 25% du travail mené sur la planète relève du domaine du marketing et de la publicité. Donc voilà, ces mesures simples, le chômage, l'obsolescence programmée, la publicité, nous permettraient de diminuer quasiment par deux le temps de travail et du coup de se consacrer à des activités hors travail, hors travail salarié.
Et donc d'écrire des livres.
Et donc d'écrire des livres
ou de la poésie.
Ou de la poésie, ou de passer du temps avec vos amis et vos familles.
D'accord. Alors, vous abordez aussi la question de quel type de livre. Alors, je crois que ça rejoint ce qu'on. J'avais interviewé Alain Damasio récemment et on était arrivé à la conclusion, mais en tout cas, une piste qui était que finalement les romans et les romans de science-fiction étaient peut-être plus efficaces que l'essai théorique. J'ai l'impression que c'est ce que vous pensez un peu.
Je pense que les deux ont leur propre efficacité. Il y a, si vous voulez, je dirais, deux voies pour promouvoir certaines idées à travers des livres. Il y a la voie directe, c'est la voie effectivement théorique, c'est notamment celle que j'emprunte dans ce livre. Voilà, présenter un ensemble de thèses philosophiques, historiques, politiques comme telles. Et il y a l'autre voie, qui est la voie indirecte, de passer par la fiction, de passer par le roman, de passer, comme le fait Alain Damasio dans La Zone du Dehors, par la mise en scène d'une société dystopique réellement affreuse, où on est tous évalués, hiérarchisés les uns avec les autres. C'est le contrôle, la gouvernementalité foucauldienne par excellence. Et ça, c'est la voie indirecte, la voie oblique, si vous voulez. Et je pense que c'est une voie particulièrement intéressante, stimuler notre imagination.
Mais là encore, tous les intellectuels ne sont pas armés pour le faire. Il y en a pas énormément qui ont un talent littéraire.
Non, mais le travail intellectuel n'est pas un travail solitaire, c'est un travail collectif. Certains peuvent se consacrer à des ouvrages de théorie et de sciences sociales, d'autres à des ouvrages de littérature, et c'est heureux, c'est heureux comme ça.
Il y a une question alors qu'on a abordée un tout petit peu tout à l'heure, c'est et qui n'est pas directement posée dans le livre, mais dans le travail que vous menez sur les ZAD, la désobéissance civile, je pense que Notre-Dame-des-Landes est peut-être un bon exemple, enfin de ce que j'en connais, des quelques personnes qui y sont, qui y vivent, j'ai pas l'impression qu'elles ont eu justement besoin d'un, elles ont certainement lu des livres ouverts, mais c'est pas un mouvement qui a été théorisé, ou en tout cas qui l'a été, mais a posteriori.
Oui, 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 mais c'est ça qui est intéressant, c'est que souvent les idées ont un temps de retard sur les actions. Hein. À Notre-Dame-des-Landes, alors prenons un exemple d'ouvrage qui essaye de donner des bases théoriques sur ce qui s'est passé et ce qui se passe encore à Notre-Dame-des-Landes, à nos amis du Comité Invisible, qui se revendiquent quand même fortement de ce qui se passe sur la ZAD, même si ce sont loin d'être les seuls intellectuels en lien avec ce qui se passe là-bas. L'ouvrage arrive après des années de lutte sur la ZAD.
Ouais.
Donc c'est ça qui est important, c'est de voir que les idées révolutionnaires, généralement, elles arrivent après l'enclenchement des mouvements révolutionnaires, ou en tout cas, elles les accompagnent, elles sont concomitantes, mais c'est pas trouver l'idée juste et grâce à cette idée juste débloquer la situation et mettre en marche le mouvement.
Ouais.
Ça fonctionne de manière effectivement beaucoup plus dialectique, où tout l'enjeu est effectivement d'accompagner les idées et les pratiques voilà, de façon assez, assez cyclique, sans donner la supériorité aux unes et aux autres. Parce que le risque, c'est l'intellectuel tout puissant, le philosophe roi, mais l'autre risque aussi, c'est, si vous voulez, l'activisme pur qui refuse aussi l'aide et le soutien.
L'accompagnement, oui. De ce que vous avez observé dans ces mouvements-là, quelle place tient la théorie concrètement,
concrètement, oui, une place très importante. Pourquoi ? Pour la simple raison que qui est-ce qui compose ces mouvements-là ? Qui est-ce qui compose ces mouvements-là ? En grande partie des gens qu'on pourrait qualifier d'intellectuels précaires, voilà. Des jeunes, des plus ou moins jeunes, mais qui sont tous passés par l'université quelques années, la plupart pour faire des études en sciences sociales, et puis bon ben voilà, qui se retrouvent pour tout un tas de raisons dans ces mouvements-là. Donc c'est des gens qui sont d'avides lecteurs de sciences sociales.
Ouais, même ceux qui, parce que j'ai une vision un peu différente, même ceux qui ont construit des cabanes, qui vivent là-bas depuis 5 ans.
Eh bien, y compris ceux qui construisent des cabanes et qui sont là-bas depuis 5 ans, c'est des gens que, pour certains, moi j'ai croisé au début de mes études, voilà, on suit des parcours différents, mais désormais, eux s'installent sur place.
Non, mais c'est vrai, en fait, en même temps, vous le dites dans le livre aussi, c'est que dans la catégorie, vous mettez aussi les artistes précaires.
Ah oui, bien sûr, voilà, ils font entièrement partie de la catégorie des intellectuels.
C'est pas que tous les étudiants sociaux.
Non, c'est pas que les étudiants sociaux, c'est bien plus large que ça, l'ensemble des artistes
en
qui sont
temps,
là-bas.
En même temps, ça serait compréhensible, parce que vu que la fac de sociaux produit quand même un tas de précaires qui généralement soit arrêtent au bout d'un an, soit se retrouvent au chômage, pardon. D'accord, le mouvement intellectuel n'a pas forcément, le mouvement social n'a pas forcément besoin d'un accompagnement théorique, mais en tout cas, il peut s'appuyer
dessus. Et puis, quelque part, quand on regarde concrètement, naturellement, les idées sont là et ces activistes baignent dans un climat d'idées, mais d'idées au sens vraiment large. Hein. C'est pas simplement avoir lu Bourdieu ou Foucault, ça peut être autre chose.
Oui, c'est ça. Ça peut être aussi, je sais pas, par exemple, vous parlez de Wardine dans le livre, les mouvements, les grands mouvements sociaux qu'il a décrits aux États-Unis, le rôle de l'intellectuel n'est pas évident. Je ne sais pas, quelqu'un comme Mother Jones, pas du tout. Enfin, je ne pense pas qu'elle ait eu le temps de lire beaucoup de livres. Pourtant, elle a initié des mouvements très très forts.
Oui, mais le problème, c'est que les leaders des grands mouvements sociaux sont effectivement généralement considérés comme des non-intellectuels, comme des activistes. des militants, etc. Mais c'est des gens qui produisent, c'est des gens qui produisent des idées. C'est pour ça aussi que
c'est
je
cela
disais,
que vous voulez faire et cela, rejoindre.
Cela, il est important de voir que ce sont aussi des producteurs d'idées. Et donc, si vous voulez que l'intellectuel rémunéré, celui dont le stéréotype de l'intellectuel en chaire d'université n'a pas le monopole de l'intelligence, parce que l'intelligence politique notamment, elle est produite par les mouvements sociaux.
D'accord. Après, l'autre question, donc une fois qu'on a posé la question de la nécessité ou en tout cas de l'utilité du travail intellectuel dans les luttes, il y a la question de l'efficacité des luttes elles-mêmes. En gros, à quoi bon tout ce travail si les luttes sont sans effet? Et je pensais à... Oui, c'est là, du coup, que j'en arrivais à ce que vous aviez esquissé dans ce papier sur l'essoufflement des luttes, enfin, du répertoire conventionnel de lutte, la grève, la manif et le vote contestataire. Oui. Donc, théoriser cet essoufflement, est-ce que ça peut permettre, est-ce que le but de la théorisation de cet essoufflement, c'est de donner envie aux gens de faire autrement, enfin de permettre aux gens d'y voir plus clair, de savoir ce qu'ils font quand ils vont manifester, c'est-à-dire rien ou en tout cas plus grand-chose, et de les orienter vers des stratégies peut-être plus efficaces?
C'est d'abord un constat. À nouveau, il y a deux temps. Il y a le temps de l'analyse, du diagnostic, évaluer la situation et montrer que, effectivement, depuis à peu près 3 décennies, on a un certain essoufflement, un déclin que j'appelle structurel des formes de manifestation, de contestation légale. La grève, le syndicalisme, le boycott, le vote pour des partis protestataires. Et en même temps, on a pour le coup une démultiplication des actions illégales de type ZAD, désobéissance civile, activisme en ligne, etc. Mais ça, c'est le temps, c'est le temps de l'analyse. C'est pas parce qu'on a ce basculement que il faudrait en déduire qu'il y a une supériorité politique de l'action extra-légale sur l'action illégale. Je pense qu'elles
pas
sont...
supériorité politique, mais juste en termes d'efficacité. Simple.
Je pense qu'il faut plutôt penser les deux sur les modes de l'articulation et non de l'opposition. De toute façon, quand on regarde concrètement, qu'on fait des enquêtes statistiques et qu'on demande aux gens est-ce que vous participez à des manifestations, à des actions illégales, les deux sont étroitement corrélés. Les gens qui se mobilisent le plus de façon extra-légale sont aussi les gens qui par ailleurs se mobilisent et contestent le plus de façon légale. Donc si vous voulez, les deux vont quand même aussi dans une certaine mesure ensemble. On peut difficilement trancher comme ça abstraitement sur ce qui est le plus efficace, parce que le choix d'une stratégie, ça dépend toujours du contexte présent de la lutte, des revendications, de qui on a en face, des rapports de force. Donc on peut difficilement trancher abstraitement comme ça sur la stratégie préférable. Le stratège, c'est justement quelqu'un qui sait saisir le moment opportun, ce qu'en grec on appelle le kairos, le moment à saisir, et c'est en fonction de ce moment qu'on doit se déterminer sur la stratégie à adopter.
Et vous le dites, que comment critiquer l'ordre établi sans alimenter la résignation et le défaitisme? Et j'avoue que c'est un peu un problème que j'ai, que plus je lis, moins je fais, et plus je lis, plus j'ai envie de me désintellectualiser et effectivement de devenir ébéniste, mais que ébéniste, pas ébéniste intellectuel, ou cuisinière plutôt, dans mon cas, enfin, j'en sais rien, mais voilà, comment ne pas désespérer.
Mais il y a quelque chose effectivement d'un peu désespérant quand on se concentre sur tout ce qui va mal, quand on se concentre sur le chômage, sur la crise écologique, sur la montée du racisme, qui sont des choses, et il faut absolument le faire, il faut pointer tout ça du doigt, il faut critiquer, il faut essayer de comprendre les logiques qui pousse à la montée du chômage, du racisme, de la précarité, etc. Il faut le faire, mais de manière tout à fait pragmatique, je pense qu'il faut aussi mettre en avant, et c'est le travail des intellectuels, mais c'est le travail de nous tous, il faut aussi mettre en avant tout ce qui fonctionne, toutes les expérimentations alternatives positives. Voilà, il se passe tout un tas de choses, aussi bien en France qu'à l'étranger. Vous regardez, par exemple, ce que font les apatistes au Mexique, ce que font les Espagnols à Marina Leda, aujourd'hui tout un tas de coopératives autogérées, aussi en France, près de chez nous, d'AMAP, etc. C'est des choses qu'il faut prendre en compte parce que ça redonne de l'espoir, tout simplement. Que ça redonne de l'espoir et que ça donne envie de se battre, ça donne envie de d'agir et ça évite le piège, qui est vraiment le piège aujourd'hui, hein, qui est celui de la résignation, du fatalisme.
Et alors du coup, ça m'amène à une autre de vos marottes, qui est donc la question, je l'ai dit un peu au début, la question de la démocratie, ou en tout cas de la recherche de la vérité, de la réalité de la situation, du régime politique dans lequel on vit. Et c'était l'objet de votre livre, La gauche
et l'oubli de la question démocratique.
Et alors, où est-ce que c'est? Oui, c'est ça. Et donc, dans ce livre, mais aussi dans des tribunes que vous avez pu faire pour l'Humanité ou Libération, vous expliquez qu'il faut réfléchir à définir de manière plus vraie le régime politique dans lequel on vit, et que ce n'est pas, vous arrivez à la démonstration que ce n'est pas un régime démocratique, que c'est un régime oligarchique, qui pour autant se différencie d'autres régimes oligarchiques, puisqu'on pourrait dire qu'on vit dans une oligarchie
libérale. Pas autoritaire.
D'accord. En quoi, vous l'expliquez, mais expliquez-le-nous maintenant, en quoi est-ce que ce renversement de perspective peut être utile pour les gens, de savoir qu'ils ne... Donc, en quoi leur révéler cette vérité est utile pour les gens, de savoir qu'ils ne vivent pas en démocratie, mais dans un régime oligarchique libéral.
Je vais y répondre, si je peux me permettre. Je pense qu'aujourd'hui, les gens ont une grande mesure plus conscience du fait que nous ne sommes pas en démocratie que ceux qui ont le titre d'intellectuel.
Ouais.
Étant dit, pourquoi c'est important de dire que nous ne sommes pas en démocratie? Et attention, je précise, aujourd'hui, il y a tout un tas de discours qu'on entend tous les jours qui consistent à dire on est dans une démocratie imparfaite, est dans une démocratie inachevée, on est dans une démocratie qui connaît des difficultés.
Il y a même un classement
des démocraties en fonction de leur qualité, etc. Ouais. Mais il y a une chose, c'est de dire que nous sommes dans des démocraties imparfaites qu'on pourrait améliorer. Ouais. Une autre chose est de dire que nous ne sommes pas du tout dans des démocraties. Ça, je pense que c'est important de le dire. C'est important de rappeler notamment que les fondateurs des régimes politiques modernes, anglais, français, américains, au 18e, 19e siècle, étaient des gens qui écrivaient noir sur blanc. Vous avez des livres entiers là-dessus. Mmh. Je vous invite à dire notamment les travaux de Pierre Rosanvallon, puisque lui-même a travaillé la question, de Bernard Manin là-dessus, qui disent que pour ces gens-là, au moment où ils fondent nos régimes, qui sont ceux dont on hérite encore aujourd'hui, ils conçoivent des régimes aristocratiques. Mmh. Ils appellent ça des régimes républicains, mais pour aujourd'hui, on associe république et démocratie. Mais pour eux, la république, c'est justement conjurer le pouvoir du peuple. C'est mettre à distance le pouvoir du peuple et des classes populaires. Pourquoi ? Parce que les gens sont incompétents, sont intéressés, sont ignares. Donc, ils mettent en place tout un ensemble de dispositifs visant à éloigner le peuple et les citoyens du pouvoir. Et le dispositif central qui va être instauré, quel est-il ? C'est celui de l'élection, tout simplement. L'élection, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que vous n'êtes pas suffisamment compétent pour vous gouverner vous-même, et que du coup, vous confiez le pouvoir à ceux supposés les plus instruits, les plus éduqués, et au départ même, c'était tout simplement les plus riches, puisque pour Benjamin Constant, pour la BCIS, etc., pour tous ces gens-là, seuls les plus riches sont intègres, honnêtes et en capacité de se consacrer au bien commun. Les pauvres, c'est la masse,
la preuve populace. Avec Donald Trump.
Donald Trump, voilà, qui avec ses 4 milliards de dollars incarne parfaitement l'Américain moyen.
Ouais, d'accord. Mais mais ma question c'était, pourquoi est-ce que le fait de dire ça noir sur blanc, qu'est-ce que ça va changer ?
Pourquoi c'est important ? Parce qu'aujourd'hui, pour le coup, une valeur quasi universellement partagée, et une de celles à laquelle on tient le plus dans nos sociétés, c'est la démocratie. Les gens aujourd'hui sont prêts à se battre pour la démocratie. Et du coup, c'est pour ça que je pense qu'il est important de dire aujourd'hui, mais justement, raison de plus, la démocratie aujourd'hui, nous ne l'avons pas encore, et si nous la voulons, la seule façon de l'obtenir, c'est de se battre pour qu'elle advienne. On ne nous l'offrira jamais. Ce n'est pas les oligarques, ce n'est pas les élites politiques, financières, économiques, militaires ou autres qui nous offriront la démocratie. Ça, on en a l'exemple tous les jours dans tous les pays. Il y a un attachement à la démocratie, et du coup, je pense que insister sur le fait qu'on n'est pas en démocratie permet de susciter peut-être davantage de mouvements vers ce type d'origine.
Ce qui nous amène à disons, une tentative, ou en tout cas ce qui est décrit comme une tentative d'empowerment, puisque maintenant on dit ça comme ça.
On dit ça comme ça.
D'empouvoirisation.
c'est très moche en français.
C'est super moche. Mais en même temps, c'est marrant parce que c'est le genre de mots qui apparaissent, et puis, enfin, du coup, on ne sait plus quel mot français on utilisait avant que ce mot-là arrive.
Il y a capacitation qui est utilisée.
Capacitation,
en français,
mais non, ça n'existait pas non plus.
Ça n'existait pas.
D'accord. Bon, c'est pas grave. En tout cas, voilà, de renforcer
la capacité d'action.
Mais en tout cas, la démocratie dans notre pays, et c'est l'appel à la primaire qui a été signé par un grand nombre d'intellectuels venant d'horizons vraiment très, très... De gauche, mais même s'il y avait des gens de gauche, de droite, dedans. Et alors là, pareil, vous avez pris votre crayon et vous avez publié une tribune qui disait que non seulement l'organisation d'une primaire à gauche ne démocratisera nullement l'institution présidentielle, mais au contraire, elle intensifiera la logique oligarchique et personnalisante qui l'anime. Je crois comprendre pourquoi, mais expliquer...
Oui, tout simplement, pourquoi, pour quelles raisons. L'institution présidentielle, qu'est-ce que c'est ? C'est la concentration d'un pouvoir démentiel dans les mains d'un seul individu. C'est clairement un héritage de la monarchie en 1848. C'est le moment où est instauré dans la République le rôle, la fonction de président. Et c'est les monarchistes à l'époque qui se battent là-dessus, sur ce point-là, pour instaurer la présidence de la République avec le secret espoir de faire revenir le roi au pouvoir. Mmh. C'est une institution qui n'a jamais été abolie. Sous la 4e République et la 3e, elle avait peut-être moins de place. Avec De Gaulle, elle reprend toute son importance. François Mitterrand l'a très bien dit, il a écrit un livre là-dessus quand De Gaulle était au pouvoir, le coup d'État permanent. La présidence, c'est l'institution présidentielle, c'est un coup d'État permanent. Alors, il se trouve que Mitterrand a trouvé que la chaussure convenait bien à son pied une fois que lui-même a occupé cette charge. Mais voilà, de fait, c'est une institution monarchique, clairement. Et aujourd'hui, dire « on va organiser une primaire pour débattre tous ensemble là-dessus », quel effet ça a ? Ça a un effet contraire à celui voulu par les signataires de la tribune initiale autour de Piketty et Vivorca. Ça a un effet de donner dans la vie sociale et politique des Françaises et des Français encore plus de poids à cette élection qui polarise déjà tellement de choses, alors qu'il y a tellement d'autres débats, tellement d'autres choses dont il faudrait parler, que moi je trouve ça vraiment dommage.
Mais si on va au bout de cette logique, est-ce que du coup, légitime, est-ce que aller voter à la présidentielle, c'est légitimer cet état de fait ?
Libre à chacun de décider. Aller voter à la présidentielle, ça peut se justifier, ça peut ne pas se justifier. Et là, ça dépend vraiment là-dessus.
Ok.
Mais de fait, je pense que considérer l'abstention, la haute abstention qui est là depuis un certain nombre d'élections présidentielles, comme un signe de la crise de la démocratie, c'est une interprétation assez étroite, c'est-à-dire que l'abstention présidentielle, ça peut aussi être porté par quelque chose de positif et par un refus de justement jouer le jeu de cette grande farce et cette grande mascarade. C'est pas seulement des gens complètement dépolitisés qui s'abstiennent, c'est aussi des gens qui ont compris qu'on nous dit qu'on nous donne la parole le jour des élections, mais en fait rien du tout. On nous demande justement de nous déposséder de notre parole pour la donner à je ne sais qui va la trahir allègrement ensuite pendant 5 années.
Mais parmi les signataires, du coup, genre, il y a beaucoup de gens de l'EHESS, vous devrez.
Oui.
Et dans le bouquin, vous parlez de la fabrique du conformisme, en gros, dans l'université française. Et en gros, une fois qu'on est dans l'université, on est poussé au statu quo parce que c'est difficile de critiquer ses collègues d'université. Est-ce que ça vous arrive
C'est difficile, hein. C'est le problème de l'endogamie. Hein. On peut avoir des opinions politiques radicalement opposées. Quand celui que vous allez attaquer publiquement dans la presse, vous le croisez tous les matins dans votre laboratoire, effectivement, ça devient plus compliqué de l'attaquer publiquement. D'abord parce que ça vous met en porte-à-faux vis-à-vis de lui, et puis aussi parce que vous vous rendez compte qu'en fait, ce type n'est pas si méchant que ça, qu'il est même assez sympa, et que voilà, ça atténue atténue les divergences. Ça, c'est quelque chose d'indéniable. Quelque chose aussi qui se surajoute à ça, c'est le fait que pour un ensemble de jeunes comme moi, qui sont des gens qui ne sont pas encore en poste définitivement à l'université, c'est difficile de critiquer frontalement les gens qui demain seront dans les jurys chargés de me recruter ou pas me recruter. Bon, ben, de fait, hein, je ne suis pas non plus totalement suicidaire et je n'entends pas dénigrer ceux qui, voilà, demain peuvent éventuellement me trouver un poste à l'université. Mmh. Oui, clairement, il y a des logiques institutionnelles qui entravent la critique. L'interconnaissance, les relations hiérarchiques avec le fait que certains ont un statut et d'autres n'en ont pas ou ont un statut précaire. Et que je pense que une des qualités principales de l'intellectuel digne de ce nom, c'est justement cette possibilité de voyager, d'aller voir des thèmes, des disciplines, des problématiques qui ne sont pas à la base celles qui relèvent de sa spécialité. Et si vous voulez, il y a un vrai enjeu derrière ça, qui est un enjeu politique. C'est que si on cherche à mener une critique globale de la société, une critique radicale de la société, alors il faut élaborer une compréhension globale qui prenne en compte l'ensemble des problèmes. Il faut lier le fait religieux, le fait économique, le fait politique entre eux, le fait juridique. Il faut croiser les problématiques, il faut croiser tout ça. Et aujourd'hui, on est amené au contraire à cloisonner ces différents problèmes. Mmh. Cloisonner ces différents problèmes, du coup, chacun voit les choses par son ornière, et ça empêche d'avoir un discours global contre l'état actuel des choses.
D'accord. Et est-ce que vous attendez, une fois que les intellectuels sont partout, c'est cette forme-là d'intellectuel qui vous faudra oui. Un intellectuel transversal.
C'est ce que j'appelle un intellectuel apatride. Par opposition à l'intellectuel foucauldien, qui était l'intellectuel spécifique, parce que Foucault, effectivement, voyait un intellectuel engagé du côté des dominés. Mais quelque part, son intellectuel, c'était un peu l'envers de l'intellectuel du côté des dominants, parce qu'on restait dans des cadres très étroits, très étriqués. Et moi, j'en appelle un intellectuel apatride qui voyage dans toutes les disciplines et dans tous les objets, mais c'est un point important, ce travail-là si vous voulez, penser l'ensemble du domaine du pensable. C'est une tâche inaccessible, penser tout ce qui est pensable. Mais pourtant, c'est cette tâche-là qu'il faut se donner. Et cette tâche-là, elle est tellement ambitieuse qu'elle se mène forcément collectivement. On ne peut pas travailler les uns les autres, chacun dans notre coin. Il faut travailler ensemble, ça veut dire entre universitaires, ça veut dire aussi au-delà de nos frontières disciplinaires, et ça veut dire aussi entre universitaires et journalistes, entre journalistes et artistes, entre artistes et universitaires, et tous ceux que j'oublie, mais qui font aussi partie quelque part du monde intellectuel.
D'accord. Bon, et bien, bienvenue dans ce monde merveilleux. Raphaël, tu travaillais ta tête pendant toute... Oui, tu vois, tu viens nous rejoindre, c'est sympa. Merci beaucoup, Manuel, et bonne chance pour la suite. Enfin, ça m'a l'air bien parti, mais j'espère que vous allez être titularisé, que vous allez rentrer dans le rang.
Et la critique sera alors encore plus sévère. Voilà.
Howard Dean disait « On ne peut pas être neutre quand le train est en marche ». À plusieurs reprises à Paris et à Boston, nous avons eu la chance de rencontrer et de filmer Howard Dean, toujours stimulant et lucide, savant et populaire à la fois, cherchant toujours à mettre en lumière au cours de l'histoire ces moments où, contre toute attente, les gens se battent ensemble pour leur émancipation et finissent quelquefois par l'emporter. À la fin, Howard Dean disait « Je veux qu'on se souvienne de moi comme quelqu'un qui a donné aux gens des sentiments d'espoir et de pouvoir qu'ils n'avaient pas avant. » Voilà exactement ce qui nous a donné envie de réaliser ce film. Thank you.